Bonjour Coco.
Bonjour.
Quand on vous présente, souvent on associe à votre métier de dessinatrice de presse et de bande dessinée le terme de survivante. Vous qui avez effectivement survécu au massacre du 7 janvier 2015, vous avez été prise en otage par les frères Kouachi dans les locaux de Charlie Hebdo. Ce jour-là, nous avons perdu les dessinateurs Charb, Cabu, Honoré, Tinius et Volinsky. Si on s'arrête déjà sur ces deux mots et avec le recul, on est saisi par le fait que cette association est indigeste, douloureuse, incompréhensible. Nous sommes donc en 2026, 11 ans plus tard, dans une démocratie où oui, dessiner librement, caricaturer peut donc susciter la haine au point d'être tué. Nous sommes en 2026 et malgré les nombreuses menaces de mort qui pèsent sur vous, la dernière étant celle envoyée à la suite d'un dessin dans lequel vous avez représenté les habitants de Gaza, affamés avec comme texte accompagnant Ramadan à Gaza début d'un mois de jeûne, vous continuez d'exercer votre métier. Vous avez publié un livre, devenu une BD, aujourd'hui une pièce de théâtre qui se joue depuis le 31 janvier au Théâtre Le Pic à Paris. Dès la première page de votre ouvrage, dessiné encore, on découvre un dessin qui nous interpelle. Il s'agit de deux fantômes qui ont les yeux grands ouverts et qui laissent échapper une femme. On comprend que c'est vous, avec comme sous-titre, des fois ça va, des fois ça me submerge et ça m'emporte. Dessiner, c'est votre façon de vivre, d'avancer du coup ?
Dessiner, c'est mon métier, c'est ma passion et c'est vrai qu'après l'attentat, c'était ce à quoi je me suis accrochée fermement pour pouvoir continuer à vivre, oui, exactement. Par ce biais-là, par ce moyen d'expression, on peut dire tant de choses, on peut être engagé, on peut dénoncer, on peut donner à réfléchir et c'est quelque chose qui me semble vraiment vital par les temps vraiment troublés qu'on peut parfois traversée dans l'actualité. On a vu Trump tout à l'heure sur vos écrans. Voilà, ça fait partie des sujets à traiter avec toujours amusement et réflexion.
Vous portez un cœur à l'oreille. C'est une grosse signification, ça, quand même. C'est-à-dire que c'est une ode à la vie, cet ouvrage aussi, d'abord.
Ce qui est l'ode à la vie, c'est de continuer à faire ce métier. Dans le fait de continuer après l'attentat du 7 janvier 2015, le plus important, c'était d'apporter une réponse politique et de pouvoir dire que les terroristes, les fantômes, dont vous parlez, qui pour moi sont pas des fantômes, c'est des figures vraiment anonymes, lâches et cachées derrière leur cagoule. Pour moi, le plus important, c'était de pouvoir dire que après ça, on continue à faire le travail et que les terroristes islamistes n'ont pas gagné et n'ont pas pris ce journal qui nous tient, qui nous passionne et dans lequel on est bien.
On parle de pacifisme quand on évoque justement les dessinateurs qui sont tombés et on parle de combat à côté. C'est assez fou d'ailleurs de se rendre compte à travers cet ouvrage à quel point vous êtes passée du côté pacifique au côté combattante parce qu'on vous oblige à le devenir. C'est-à-dire que vous combattez effectivement celles et ceux qui souhaitent tuer la liberté d'expression et vous combattez vos propres démons aussi.
Après, quand on est dans le combat, on est dans le combat d'idées, mais on reste des pacifiques. On est des combattants pacifiques par le dessin. Il n'y a pas d'armes au poing où on n'est pas là à faire la guerre à qui que ce soit. Mais c'est vrai que dans une démocratie, on est sans arrêt à réfléchir, à débattre, à confronter des points de vue qui sont pas forcément les mêmes. Et du coup, c'est vrai que ça bataille un peu, ça bataille sur le terrain des idées. Mais on reste tous les dessinateurs des pacifiques dans l'âme et vraiment Charlie. Le reste.
Dans cet ouvrage, on découvre ou redécouvre cette journée. Vous avez réussi d'ailleurs à raconter à travers plusieurs, entre guillemets, propositions de thérapie. Ce qui ressort de cette conférence de rédaction du matin, c'est les rires. Les rires et les engueulades. Et je crois que c'est ça aussi qui fait l'esprit Charlie, qu'on a toutes et tous porté, parce que ce drame personnel est aussi un drame collectif. On a toutes et tous été touchés par ça. Il y a un avant et un après Charlie Hebdo. C'est important justement de montrer que même au sein d'une rédaction, on n'est effectivement pas forcément toujours d'accord, et que les rires, par moments, ont quelques éclats de voix.
Absolument, oui. C'est important de montrer comment on travaille. Alors c'est toujours... Moi, j'ai toujours dépeint cette ambiance de rédaction par un mélange de sérieux et de déconnade. Et puis bien sûr, comme vous le dites, parfois ça se confronte un petit peu, mais c'est bien normal aussi quand on réfléchit, quand on bouscule certaines idées, voilà, d'aller chercher un peu plus loin, de chercher comme ça à alimenter ce débat, à le nourrir et puis à faire avancer les choses, quoi. Donc oui, j'aime bien ça. Et le rire, c'est une manière pour nous de transcender la gravité qui nous entoure. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la rédaction, qui l'est toujours et qui passe par multiples moyens de faire ça. Récemment, on a vu un dessin d'humour noir de Salch sur Grand Montana qui a fait beaucoup réagir. Et moi, je trouve que ce dessin est bon parce qu'il est vraiment dans la ligne d'humour noir de Charlie. Voilà, on voit des skieurs qui continuent à vivre malgré tout, malgré ce qui s'est passé, cet incendie tragique qui a tué des jeunes. Alors oui, parfois le dessin passe par des images qui peuvent être un peu choquantes, dérangeantes. Mais l'idée derrière, c'est que les jeunes continuent à vivre et c'est un peu ce que j'avais pu faire aussi dans un esprit un peu de résistance après les attentats du 13 novembre. Ce survivant qui continue à boire du champagne, à faire la fête avec le champagne qui coule par les trous des impacts de balles. Malgré tout, voilà, il y a cette envie de rire, même des choses graves, pour pouvoir dépasser la gravité, la mort et toutes ces choses auxquelles on est confronté.
On est 11 ans plus tard, ça signifie quoi alors ce terme de liberté d'expression pour vous, Coco? Est-ce que ça a changé?
La liberté d'expression n'a pas changé, c'est une valeur socle et vitale pour nous tous d'ailleurs, pas que pour les dessinateurs de presse. Après, on est confronté peut-être à un peu plus de frilosité ou des réactions qui sont épidermiques parfois quand on utilise cette liberté d'expression et qu'on la pousse, parce que c'est notre travail aussi de pouvoir aller le plus loin possible dans ce qu'on dit. Quand on est dans un journal satirique, on n'est pas censé faire des choses tièdes, convenues, voire un peu consensuelles. C'est pas le but d'une caricature de presse dans un journal satirique comme Charlie. Donc s'il y a des gens qui se disent offensés, eh bien très bien, mais qui passent à autre chose et qui regardent pas forcément le dessin, on n'est pas obligé d'aimer ce dessin. Mais après, qu'on nous laisse libre, et beaucoup de gens nous reconnaissent le droit de dire ce qu'on a à dire, même si parfois ça plaît pas.
Effectivement, on se rend compte que de dessiner permet à certains de continuer à vivre. La vie continue malgré ce qui s'est passé. Vous continuez à vivre avec ça que vous portez en vous. Vous avez tenté plein de choses. Vous nous racontez ce parcours avec le MDR, par exemple. Ça devient un moment très drôle dans cet ouvrage où effectivement on vous voit face à un thérapeute essayer de trouver des solutions, même si vous n'y croyez pas du tout, mais vous suivez quand même les conseils des personnes qui sont autour de vous. Ce qui ressort de ça, c'est qu'à un moment donné, il vous demande de trouver un lieu refuge, un lieu dans lequel vous vous sentez bien. Et là, c'est un gouffre total. Vous mettez du temps à trouver ce lieu-là. Vous finissez par vous retrouver dans un bois de votre enfance avec votre père à vos côtés. L'enfance, c'est ce qui permet justement aussi de garder les pieds sur terre et de continuer ou pas?
Oui, ce psy me demande de reconstituer une image mentale dans laquelle je me sens bien. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça me semble complètement en dehors de ce que je vis, puisque voilà, on est traumatisé. À ce moment-là, c'est juste après l'attentat du 7 janvier 2015. On ne sait pas du tout ce qu'on traverse quand on est victime et confronté à un attentat meurtrier comme ça. On ne sait pas du tout l'impact que ça a sur nous. Et voilà, ce qu'il me disait me semblait complètement à côté de la plaque, pour tout vous dire. Est-ce que l'enfance est un refuge? Peut-être qu'il y a des moments, oui, auxquels je pense. Mon père, par exemple, c'est quelqu'un qui m'a toujours encouragée, accompagnée et qui était très important. Donc c'est vrai que j'ai pensé naturellement à lui et à des moments dans lesquels je me sentais bien. La forêt, la nature. On est accompagné de silence et on est dans une espèce d'endroit où on peut se permettre un peu l'introspection et sans que ce soit déballé. Donc voilà, j'ai pensé à ce moment et après ça n'a pas marché avec cette EMDR.
Vous avez arrêté au deuxième rendez-vous.
Oui, parce que c'était bizarre. Tout était vraiment bizarre. Je crois que j'avais juste besoin de parler et d'essayer de sortir, d'exprimer la violence de tout ça, ce qui n'était pas évident au début. Et puis j'ai fini par trouver un psychologue de Paris Aide aux Victimes que je continue à voir. C'est pas évident de sortir de ça. Voilà, monsieur Jean, ouais, que j'embrasse.
On comprend aussi à quel point le soutien, c'est important, Coco. Mais il faut trouver dans les yeux de l'autre la capacité presque humaine à comprendre ce qu'on vit sans s'imposer à ce que vous avez envie de penser, sans jugement aussi.
Oui, l'autre, c'est vrai que dans une thérapie, voilà, on est deux, et puis quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui peut vous aider à comprendre ce que vous traversez. Je dirais l'autre ou les autres aussi, c'est l'équipe de Charlie, le fait d'être ensemble, de continuer, d'essayer d'avoir cette impulsion de vie, de dire qu'on nous a pas enlevé ce journal, et puis parfois de parler de ça entre nous très pudiquement, avec beaucoup de précautions, parce que c'est pas évident de le faire. Comme on sait pertinemment ce à quoi on a été confronté ce jour-là, on a du mal à aller vers l'autre pour peut-être ça peut le renvoyer à son traumatisme ou à ce qu'il a traversé. Je pense à Risp, par exemple. C'est pas toujours évident d'évoquer ça, donc on le fait dans nos dessins, on le fait dans ce qu'on a à dire, et puis dans le fait qu'on a envie de perpétuer la mémoire aussi de ceux qui ont été assassinés ce jour-là. C'est un travail qui demande beaucoup d'application et d'énergie.
Évacuer le trauma, c'est ce qu'on vous demande de faire régulièrement, hein. C'est ce qui sort dans cet ouvrage, ça transperce presque cet ouvrage. C'en est même gênant par moments, qu'on vous demande, comme si c'était simple, d'évacuer un trauma.
Ça l'a été parfois dans les questions qui ont été évoquées là-dessus, mais que je peux comprendre. Quand on cherche à comprendre ce qui se passe, ça vaut aussi pour nous. Je pense que, de toute façon, ça fait 11 ans maintenant, et ça fait 11 ans qu'on vit avec ça en nous. parce que ça nous quitte pas, parce que on l'évoque régulièrement ce 7 janvier, on sent qu'il y a eu un avant et un après qui a été quand même effroyable, mais que malgré tout, il y a cette envie de continuer. Je sais pas comment vous dire, mais c'est là, c'est présent. Parfois, il y a des moments où on est plus ou moins bien avec ça. Parfois, c'est difficile, mais l'important, c'est de tenir debout et avec ça, à gérer en soi, quoi.
Et avec comme seule arme.
Ça vaut pour pas mal de gens.
Un crayon aussi, oui. Je le précise. Je voudrais savoir à quel moment vous tombez amoureuse du dessin, Coco.
Ça arrive tôt, puisque j'ai grandi dans une fratrie. On avait peu d'écart d'âge. J'ai un frère jumeau et j'ai un frère qui a 13 mois de moins. C'est vrai que mes frères jouant pas mal ensemble, rapidement, le dessin, ça a été un terrain dans lequel je me suis sentie bien, une forme de bulle, une forme de moment à moi, chambre à moi, comme dirait Virginia Woolf. Un truc, un espace où j'étais moi et la feuille, et je pouvais exprimer un peu mes pensées, mon imagination, puisqu'au début, ça passe par là. On imagine des choses, on essaye de représenter ce qu'on voit. C'est un peu balbutiant au départ, mais il y a quand même ce plaisir de le faire. Et après, voilà, au collège, au lycée, au collège en particulier, c'est vrai, où des profs, on commence à faire un peu des caricatures de profs et on voit que ça prend, on voit le rire que ça suscite chez les copains, les copines, on continue, on participe au journal du lycée, à faire des BD et on voit que ça rit. J'aimais bien, ça a commencé comme ça. J'ai un oncle qui faisait de la BD, comme je suis de Haute-Savoie, il faisait de la BD pour la Source Cachée à Dévian. Il faisait les calendriers et voilà, il était d'inspiration de Gottlieb, Rezer, Edika, tous ces gens fabuleux. Entre la BD et la presse, quoi, du dessin à la plume, Franquin, bien sûr, Gaston, les idées noires. Et pour moi, c'était les débuts de mes lectures, voir comment le dessin fonctionnait. Je pense bien sûr à Tintin, Peyot, les Schtroumpfs. Enfin, ces choses-là, c'est dessinateurs qui me plaisaient. Rezer aussi, et puis Cabu. Voilà, qui est vraiment quelqu'un qui a compté, tous ont compté, mais Cabu, c'est vraiment quelqu'un qui faisait référence pour tout le monde en termes de caricature, de dessin, d'esprit, son rire. Le rire de Cabu était quelque chose de suffisamment solaire pour tous nous regrouper et nous donner envie de faire rire Cabu. C'était un peu un but.
Il avait aussi cette conscience, Cabu.
Oui.
Cette conscience et cette inconscience. Ses yeux d'enfant, ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'ils étaient tous rattachés à ça, mais avec une conscience.
Oui, mais tous dans cette équipe de Charlie avaient et continuent à avoir une conscience du monde, une envie de rire de tout et puis une envie de le faire avec un certain punch mordant. Je pense qu'il n'y a pas un seul dessinateur qui ne regrette pas de ne pas être assez méchant ou de pas méchant dans le sens, je veux dire, pas méchant avec les gens, mais de pousser le bouchon, d'avoir une certaine férocité. Je trouve que ça fait du bien. On n'est pas dans un endormissement face à l'actualité, mais il y a quelque chose qui vous réveille, qui vous bouscule et puis qui donne à voir les choses autrement. Moi, c'est de cette manière-là que je le vois et je trouve que c'est bénéfique de penser comme ça.
On parle de l'esprit Charlie depuis le 7 janvier 2015, notamment, hein, pour celles et ceux qui ne lisaient pas forcément d'ailleurs ce journal satirique. C'est quoi l'esprit Charlie, Coco ? Parce que vous y êtes rentrée très jeune, finalement.
J'avais 25 quand je suis arrivée à faire mon stage à Charlie. J'étais encore aux Beaux-Arts. Je suis arrivée en 2007. J'ai eu mon premier dessin publié en 2008.
Vous en rappelez ?
Ouais, je m'en rappelle super bien. On s'en rappelle de ces moments-là. Premier dessin, c'est comme à un festival, c'est incroyable, ouais. Surtout qu'en plus, quand on dessine dans sa chambre, comme ça, voilà, on a plaisir à dessiner, mais quand le dessin est publié, a une portée, un engagement, et voilà, parle à un public, tout ça, on peut échanger. C'est quelque chose qui est assez fou, assez gratifiant, et intérieurement, voilà, ça fait très plaisir, quoi. Et puis, on a toujours envie de se dépasser, essayer de faire mieux. Moi, j'ai toujours essayé de chercher, je me sens toujours un peu nulle, ou je sens que je pourrais faire mieux. Mais voilà, il y a cette espèce d'émulation à chercher l'idée, à pouvoir donner un peu quelque chose à voir sur divers sujets, s'éclater quand même sur pas mal de sujets, l'actualité, MeToo, l'écologie, les questions religieuses ou d'intolérance religieuse, les politiques, l'international, il y a vraiment une source d'inspiration incroyable.
L'esprit
Charlie, c'est un peu tout ça pour
vous. C'est un peu de l'humilité aussi.
Oui, à la base, c'est quand même des gens qui se regroupent pour dessiner, déconner autour d'une table et puis essayer de dire des choses qui peuvent donner à penser, quoi. Donc c'est un esprit qui est à la fois simple et en même temps qui peut avoir une portée géniale.
Il y a cette voix qu'on entend aujourd'hui, Coco, là, avec cette histoire. Il y a ce qu'on voit, nous, quand on a l'occasion et la chance de pouvoir effectivement vous attraper quelque part. Et il y a le moment où vous êtes chez vous. Et on sent que ce sourire-là, il se fane par moment, parce que on est absorbé, vous êtes absorbé par cette histoire-là. Il y a un sentiment de culpabilité. Vous parlez des questions que vous posez et des si, de la présence des si dans votre vie. Est-ce qu'on arrive à les dompter, ces si?
Oui, dans Dessiner encore, j'ai évoqué ce moment où cette culpabilité du survivant me prend à la gorge. C'est-à-dire que pendant des années, je me suis sentie coupable de ce qui était arrivé. Coupable de ne pas avoir empêché les terroristes de rentrer. Coupable de ne pas avoir pu faire quelque chose. Et c'est vrai que ça m'a pris du temps d'accepter le fait que je n'aurais pu rien faire face à deux kalachnikovs pointés sur moi et des terroristes islamistes déterminés à tuer et préparés. Quand ça nous arrive, on est dans un état de sidération tel que ça vous saisit et vous êtes complètement glacé, quoi. Vous êtes saisi d'effroi. Et j'ai essayé de raconter ça avec mes mots. J'ai essayé de raconter ça avec mes mots. Et surtout avec le dessin, avec cette vague dont vous parliez, qui a été le moyen pour moi de dire ça de manière pudique. De pas jeter ça à la gueule du lecteur, si je puis dire, mais de lui donner à comprendre ce qu'on pouvait traverser intérieurement après ça, et quel effort ça a été de se relever, de s'accrocher, surtout de tenir. Et on peut être quand même particulièrement fier de se dire aujourd'hui que Charlie est toujours là, 11 ans après, parce qu'on avait perdu des plumes incroyables, perdu notre correcteur Mustapha Ourad, perdu aussi le policier qui accompagnait Charb. Enfin voilà, l'effroi dans tout ça était tel que c'était dur de se relever.
Vous racontez aussi comment vous vous êtes retrouvé à Libération, au journal Libération, qui a accueilli Charlie Hebdo, la rédaction de Charlie.
Pour la deuxième fois, parce qu'après l'incendie, ça avait déjà été le cas, oui.
Et ce soutien aussi indéfectible, quels sont celles et ceux qui vous ont le plus aidé dans ce parcours du combattant, de la combattante?
L'aide, elle est arrivée de toutes parts. Je crois que toute la rédaction de Libération était vraiment... ces deux rédactions qui ont quand même des points communs, qui portent certaines valeurs communes. Et si j'ai accepté, par exemple, de prendre la suite de Willem en 2021, quand il a pris sa retraite à Libération, c'était aussi pour ce lien que les deux journaux ont. Qui est-ce qui m'a le plus aidé? Je ne saurais pas répondre à cette question. Ça a été un truc vraiment général. Rhys a été blessé à l'hôpital. Je crois que j'avais envie de l'aider, de continuer. Je parle de Rhys parce qu'il tenait le journal depuis 2009 avec Charb et il se retrouvait seul après cet attentat. Donc moi je suis quelqu'un de loyal, donc j'avais envie d'essayer de continuer avec toutes mes forces. Heureusement qu'on a eu de l'aide, des soutiens et des dessinateurs qui ont aidé. Je pense au Canard Enchaîné qui a autorisé Pétillon pendant quelques mois à venir nous aider à dessiner, je pense à des tas de choses. Heureusement qu'on a de l'aide dans ce moment-là.
Dans la conférence de rédaction du matin, les deux sujets, c'était le roman de Houellebecq, de Michel Houellebecq, et il y avait effectivement ces jeunes de banlieue qui partaient faire le djihad. Et ça vous est resté en mémoire avec effectivement cette phrase de Tignous qui dit à un moment donné, il n'y a pas de crèche dans les banlieues, dans les cités. Enfin, c'est quelque chose qui vous est vraiment resté.
Ça faisait partie du débat. Il était en confrontation plus ou moins avec Bernard Maris, à échanger des idées là-dessus, et ils n'étaient pas d'accord visiblement. Ça faisait partie de la rédaction.
Il y a toujours ce problème de religion, de ceux qui s'accaparent les textes sacrés et qui en font autre chose que ce que la religion initiale indique. Est-ce que vous avez le sentiment, Coco, que ça évolue dans le sens positif, ça?
Oui, les imams 2.0 qui viennent prêcher et mettre des idées néfastes dans la tête des jeunes, il y en a toujours. C'est quelque chose à combattre sur Internet. C'est vrai que ça fait vraiment peur, ce prosélytisme. Et les jeunes peuvent parfois être perméables à tout ça. C'est ce qu'on évoquait justement ce jour-là. Rhys a eu cette formule à dire, on était en train de parler de ces jeunes qui partent faire le djihad en Syrie sans se douter qu'il y en avait deux derrière la porte à ce moment-là, pour vous dire comme la menace était proche, quoi. L'intolérance religieuse, c'est quelque chose qui questionne et on essaye de parler de ça dans nos dessins et de combattre ces choses-là, de combattre l'islamisme qui se glisse un peu partout dans la société. Et ça fait partie des sujets, je sais pas comment vous dire, mais en tout cas, on n'est pas sorti de tout ça, non. Non, non. Et les jeunes, par exemple, peuvent être les décibles pour ces gens-là.
Comment vous avez travaillé sur cette adaptation au Théâtre Le Pic, de voir votre ouvrage devenir une pièce de théâtre ? Coco.
Deux comédiennes sont venues me trouver il y a à peu près, je dirais, deux ans et demi de ça, pour me dire leur envie d'adapter le livre, et j'en ai été touchée. J'ai été touchée que ça leur parle et que le livre suscite suffisamment d'intérêt chez elles pour qu'elles veuillent l'imaginer autrement. C'est pas l'imaginer autrement, mais...
Se l'approprier.
Voilà, se l'approprier et créer à partir de ça. J'ai vu quelques répétitions, je suis restée quand même assez extérieure, puisque moi-même, étant très heureuse de m'exprimer librement, j'avais à cœur aussi qu'elle puisse le faire à travers le livre. Les seuls points sur lesquels je suis intervenue, c'est voilà, s'il y avait un petit contresens sur l'histoire ou s'il y avait quelque chose peut-être à améliorer. Néanmoins, après, c'est leur travail, leur œuvre, et elles ont fait quelque chose qui est vraiment stupéfiant, quoi. Ça me fait bizarre, moi, parce que j'ai pas l'habitude de ça. Il y a trois comédiennes qui sont ma voix dans le livre et qui m'incarnent plus ou moins avec des facettes. L'une un peu plus combative, l'autre un peu plus dans l'introspection, l'une un peu plus rigolote. Il y a plusieurs caractères, on va se dire, qui se dessinent de ce personnage qui est moi, mais je préfère dire personnage. Dans le livre, j'ai dessiné ce petit bonhomme qui me représente pour mettre une mise à distance. Donc là, c'est vrai que ça fait vraiment très bizarre. Mais elles sont justes. En fait, c'est ça qui est le plus important. À leur manière, elles perpétuent la mémoire de ce jour tragique, mais aussi des jours qui ont suivi, les 8 et 9 janvier 2015. L'après, ce qu'on appelle la reconstruction, qui est un terme avec lequel on n'est pas forcément à l'aise, puisque c'est vrai qu'un attentat comme ça, quand on vit quelque chose de cet ordre-là, ça vous détruit. Et vous n'êtes plus forcément à même à reconstruire de la même manière. Vous faites avec et vous, après, on continue d'une autre manière, avec des choses qui ne changent pas, mais intérieurement, il y a des choses qui changent. Je crois qu'elles ont été justes sur bien des terrains, et ce que j'aime dans leur volonté commune, c'est de parler de Charlie, de parler de cet esprit de Charlie, et de défendre ce qu'on incarne, cette liberté, et ce rire, et puis ce besoin de continuer à vivre, quoi.
Ce livre, on comprend à quel point il vous a aidé aussi à formuler des choses, à poser des mots sur des mots MAUX, et on a l'impression que cette pièce de théâtre, justement, vous permet de vous rendre compte à quel point votre voix porte et compte aujourd'hui. Est-ce que vous êtes redécouverte à travers leur adaptation à elle, leur réappropriation? Est-ce que ça vous a permis, par un autre prisme finalement, de vivre différemment cette histoire et de l'appréhender, donc de la dompter davantage?
Je dirais que non. C'est pas pour casser l'ambiance, mais...
Non,
c'est juste
pas là pour
que...
Ça.
En fait, je dirais que c'est autre chose. Il y a quelque chose d'extérieur à moi dans cette pièce, et c'est tant mieux. C'est tant mieux qu'on voit pas forcément tout ce que ça,
tout ce qui vous habite,
ça renverse, et tout ce qui est, c'est pas forcément ce que j'ai envie de montrer. C'est pas ce que j'ai eu envie de montrer dans le livre. Dans le livre, ça parle, c'est vrai, de la prise d'otage, de la mort qui surgit là où personnellement je l'attendais pas à mon âge, pas avec les dessins qu'on faisait dans notre plein droit. Je pensais qu'il pouvait y avoir des menaces, je pensais pas que ça pouvait arriver, honnêtement, à ce point-là, comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont dites dans la pièce qui aident à avancer, qui aident le lecteur à comprendre. Je pense que voilà, le spectateur, pour avoir des images qui vous portent dans un ailleurs et peut-être vers un avenir, pas forcément dans mon intériorité à moi, mais le fait peut-être d'avancer vers quelque chose qui est la vie, qui est cette envie de vivre et de survivre à ces choses-là qui partiellement vous détruisent, mais quand on est toujours vivant, on se sent redevable. J'ai longtemps pensé que j'arriverais peut-être pas à être à la hauteur après, ou à être légitime à apporter certaines choses, mais c'était une mauvaise idée, quoi.
En tout cas, vous le dites, on se découvre, hein, avec ce genre d'événement. On se découvre une force, une combativité. Vous le racontez, ça, dans vos dessins. Vous écrivez, parce que vous citez aussi Jean Fauque et Alain Bachung avec cette ode à la vie. Vous écrivez: on se relève, on lutte par tous les moyens comme on peut. Moi, j'ai essayé de faire obstruction par le dessin. Vous ajoutez que dessiner vous permet de ne plus penser. C'est le barrage à l'insensé. Moi, j'ai juste une question pour terminer, Coco. Comment vous arrivez à vous projeter justement dans l'avenir et à mettre en pause un certain nombre de choses qui vous habitent et qui vous traversent pour vous octroyer le droit d'avoir du plaisir en tant que femme aujourd'hui?
C'est quelque chose qui a pris du temps à revenir, le plaisir, l'envie de se dire qu'on peut vivre naturellement. C'est pas pour m'en plaindre, mais voilà, il y a eu des passages assez difficiles à traverser. Aujourd'hui, j'ai pris le parti de vivre à fond tout le temps, parce que je sais à quel point je suis en vie. Ça a été in extremis. Et c'est vrai que rien que le fait de savoir ça, le fait que ça puisse s'arrêter comme ça du jour au lendemain, ça vous change. C'est vrai que pendant des années, je me sentais pas légitime à vivre pleinement les choses là où d'autres pouvaient plus le faire, tout simplement parce qu'ils avaient été assassinés. Là, maintenant, je crois qu'il faut y aller à fond. Faire tout ce qu'on a envie de faire, le faire avec le plus de plaisir possible, le plus d'envie, le plus de joie aussi, parce que c'est aussi de la joie. Et puis d'essayer d'être heureux dans ce qu'on fait. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire, de pouvoir vivre de ma passion. Donc, à un moment, j'ai arrêté de me gratter la tête 100 000 ans là-dessus, parce que aussi le temps aidant, j'ai décidé d'y aller.
Merci Coco d'être passée par le monde d'Élodie sur France Info. Moi, je conseille vraiment de lire le livre Dessiner encore, et en plus d'aller voir effectivement la pièce de théâtre. C'est au théâtre Le Pic depuis le 31 janvier 2026. Merci beaucoup.
Merci à vous.